With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec mon ami Rafik Djoumi.
Salut Steph.
Salut Raph. Va-t-on vraiment rester amis En fait, est-ce que notre amitié ne va pas se déliter en direct dans ce podcast?
Je sens bien.
À cause du film que tu as choisi de traiter. Et qu'il va falloir m'expliquer, je vais te laisser. En fait, tu sais quoi, je vais laisser le micro là, je me casse. Alain, il coupe mon micro, je te laisse parler.
C'est évident que, lorsqu'on a évoqué les sujets possibles de podcast et que je t'ai sorti Wanted, choisis ton destin.
Ah, ne pas confondre avec Wanted, recherche et qu'on a traité récemment.
Exactement. J'ai bien lu dans ton regard l'amère déception, la tristesse, mais profonde, quoi, de quelqu'un qui finalement m'a idéalisé pendant des années et qui réalisait qui j'étais vraiment.
D'un seul coup, je me suis dit, tiens, mais en fait, tu pues du cul, Raph.
Exactement.
C'est pas possible.
J'ai le Blu-ray de Wanted, choisis ton destin à la maison, et j'ai vu le film plusieurs fois.
Et pourtant, t'arrives toujours pas à dire le nom du réel.
Timur Bekmambetov.
Timur Bekmambetov.
Bekmambetov, voilà, tout à fait. Dont je n'ai que ce film-là, d'ailleurs, soit dit en passant, hein, j'ai même pas forcément pris la peine de checker le reste de sa filmo, les Nightwatch, Day Watch, tout ça, je les ai pas vus.
Moi, j'ai vu, si, je les ai vus,
Alors que, bon, peut-être.
Ça pourrait te plaire.
peut-être un jour son Ben Hur, qui avait l'air d'être un bon gros nanar, comme on en fait rarement.
J'ai pas vu non plus, ouais, effectivement.
Ça, éventuellement.
Qu'est-ce que ça raconte?
Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Wesley Gibson, qui est donc joué par James McAvoy, qui est un nobody frustré de la vie, comme on l'a, dont la meuf le trompe allègrement avec son collègue de bureau, ce genre de conneries là, qui découvre un peu accidentellement qu'il est le fils d'un tueur de grand prestige, doté de pouvoirs surnaturels. Il le découvre parce qu'en fait, il est la cible d'un bad guy, on va dire, et il y a une nana sortie de nulle part qui va un jour lui sauver la vie. Une nana qui est capable de conduire une voiture en faisant des rebonds de ses quatre roues sur des bus. Donc pareil, une nana sortie d'un pur univers de fantasy et qui va donc lui révéler à son destin, quoi, d'où le titre français, qui fait partie de cette lignée de gens qui
ont hésité entre choisir ton destin et dans Star Race. Je sais pas pourquoi ils sont
dans Star Race, c'est vrai que ça aurait été pas mal dans Star Race, ouais. Et on va donc le mener à une organisation qui va un peu le chapeauter pour l'entraîner et lui révéler qui il est vraiment, quoi, faire extraire ses pouvoirs qu'il a en lui, parce que c'est un mec qui avait des maux de crâne et des trucs comme ça, il comprenait pas exactement ce que c'était, et en fait c'est la source de son pouvoir, sa capacité notamment à tirer des balles, systématiquement,
se surconcentrer,
exactement, ouais. La première chose qu'on va lui demander quand on va lui présenter le big boss de cette organisation qui est joué par Morgan Freeman,
de manière brillante d'ailleurs,
n'est-ce pas, hein, qui est pas du tout en train de cachetonner, la première chose qu'on va lui demander, c'est on lui met un flingue dans les mains, demander de tirer sur les ailes d'une mouche en mouvement, quoi. Et à sa grande surprise, il va parvenir à le faire. À partir de là, donc, il va être formé à devenir cet assassin ultra. En gros, c'est ça, voilà.
En gros, c'est ça.
Alors, et puis à Terrence Stamp, il est méchant.
Voilà. Oui, même pas, en fait.
Ouais.
T'as pas vu le film de...
Si. Ouais.
Ah, tu veux pas spoiler. D'accord. Et ça, tu veux pas spoiler. Tu veux spoiler la mort de Steven Seagal dans Ultime Destination, et tu veux pas spoiler ça. D'accord. adapté de, d'une BD de Marc Millar.
Tout à fait, que je n'ai pas lu, mais que tu as lu, Stéphane.
J'ai lu, parce que je l'avais lu à l'époque, puisque quand le film est sorti en 2008, j'officiais dans un magazine de cinéma, et on m'avait demandé la critique, et je m'étais dit, je veux quand même savoir, en fait, d'où vient la BD, et j'avais la BD sous la main, à cette époque-là, et du coup, je l'ai lu, après avoir vu le film, et je me suis dit, mais ça n'a rien à voir, en fait.
C'est une adaptation très libre, d'après ce qu'on m'a expliqué, effectivement, et il y a eu des détractations. Apparemment, au départ, de ce que j'ai compris, Marc Millar n'était pas très chaud pour, par rapport à cette adaptation. Il avait peur, justement, de l'américanisation du truc, il faut le dire ce qui est. Hein. Marc Millar, c'est quand même un esprit british assez marqué. Comment dire, un peu dans la tradition initiée par comment ça s'appelle 2000 AD au début des années 80, enfin genre de truc là quoi, un truc qu'ensuite il a bossé sur des comic books américains bien sûr,
Avengers en l'occurrence
notamment,
enfin les Ultimates en l'occurrence,
mais en leur amenant justement cet esprit punko-british, je sais pas comment on peut le dire.
Punko beauf, hein, pour moi, oui, parce que c'est un gros beauf, hein, quand même. Marc Millar, je suis désolé, je fous les pieds dans le plat, mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai jamais trop apprécié dans le comic book. Et en l'occurrence, quand je dis beauf, en fait, c'est surtout parce que là c'est c'est James McAvoy qui joue le rôle de Wesley Gibson, mais dans la BD, en fait, et comme il aime bien faire ça assez régulièrement, hein, si Nick Fury a les traits de Samuel Jackson, c'est du fait de Marc Millar, quoi. Bah là, dans Wanted, c'est Eminem. Ce qui en dit long, moi je trouve, sur l'esprit punk un peu manufacturé, je trouve, du mec. En fait, c'est-à-dire que en gros, c'est qui le rebelle, tu vois, c'est qui le mec, tu vois, bah, voilà. C'est Eminem pour lui, tu vois. Et donc en fait, il a ces traits-là. Et pour moi, bon, là, on est quand même assez loin de Carpenter, quand même. On est assez loin de John Carpenter et ce genre de figure-là, en fait, très iconoclaste, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Après, la BD en soi, moi je trouve, encore une fois, pas terrible de mémoire, tu vois, mais avec beaucoup plus d'idées barjo, en fait, c'est-à-dire que t'avais un monstre de caca, t'avais des combats, tu vois, interdimensionnels dans New York qui faisaient péter des trucs et tout, des trucs que tu voyais pas forcément tout le temps, en fait, dans le cinéma, que tu vois un peu plus maintenant grâce au MCU ou ce genre de choses, quoi, mais même si c'est très édulcoré aussi, pas le monstre de caca, hein, je parlais vraiment des vaisseaux au-dessus de New York, tu vois, mais qu'est-ce que t'avais d'autre, je sais plus, enfin, t'avais quelques trucs comme ça, ça se voulait un peu radical dans la violence et tout, quoi, et ça allait beaucoup, beaucoup plus loin dans le scope, on va dire, de l'histoire, c'est-à-dire que là, ça reste quand même très concentré sur principalement des gunfights, des petites scènes d'action
tout à fait
matrixées, on va dire, puisque en fait
c'est évident que c'est la référence qui vient immédiatement à l'esprit, puisque la scène d'ouverture du film de toute façon ne cache même pas le fait qu'elle essaie d'aller là-dessus. On assiste en fait à une tentative d'assassinat d'un mec dans une tour par des tueurs d'élite, et en fait ces tueurs d'élite vont se retrouver très surpris parce que ce gars a des pouvoirs spéciaux, on va dire, qui lui permettent notamment de faire des bonds gigantesques, qui va sauter
d'un immeuble à l'autre
hors de la tour, durant son saut gigantesque se débarrasser des trois tueurs d'un coup, parce que justement ces balles sont en mesure de faire des boucles, en fait, c'est-à-dire de tourner autour des obstacles pour les atteindre directement. Donc évidemment tu penses à l'agent Smith, le type est en costard cravate, évidemment il y a la tour du premier Matrix, etc.
Mais surtout qu'on est en 2008,
voilà,
c'est 9 ans après Matrix,
exactement,
voilà, donc,
Mais le truc, c'est que c'est Wanted, et c'est la raison pour laquelle, justement, j'ai gardé le film chez moi. Les raisons qui m'ont amené à le mater, en fait, c'est que je devais, à une époque, m'occuper de toutes les sorties Blu-ray d'une période, en fait. Et on m'avait envoyé plein de Blu-ray, en fait. Et j'ai découvert vraiment Wanted dans cette configuration-là. Après, ces Blu-ray, je les rendais. Et puis finalement, Wanted, j'ai dit, non, bah, celui-là, il m'a fait marrer, je le garde, quoi. Et il m'a fait marrer parce que, au tournant des années 2000, on a eu un vrai shift du fait de la maturation des effets spéciaux numériques, qui a permis effectivement aux grands cinéastes de nous montrer toutes les possibilités que le cinéma entre guillemets fantaisiste ou de comic book pouvait être. C'est l'époque où on aurait dû avoir Hellboy de Guillermo del Toro, en gros, en 98, qu'on n'a pas eu, mais voilà. Mais en tout cas, on a eu Spider-Man, on a eu Le Seigneur des Anneaux, on a eu ces films qui tout d'un coup nous ont montré ce que la maturation des effets spéciaux pouvait donner. Et rappelle-toi qu'à l'époque,
En termes de mise en scène,
en termes de capacité enfin de créer à l'écran les délires excessifs justement de la bande dessinée ou de l'illustration de fantasy.
Moi je dirais même, pour aller plus loin dans la logique du comic book, de relier en fait les cases entre elles. Mm. C'est-à-dire ce que toi tu lis comme mouvement, en fait, si tu veux, quand tu et ce que tu te fais comme idée de, oui, du mouvement tel qu'il est représenté en fait dans trois cases qui se suivent, mm, et en fait d'avoir ce mouvement là dans des idées
dans un seul plan, là, de pouvoir enchaîner
comme
effectivement
le bullet time, ou ouais, le genre de choses en fait, ouais,
et de pouvoir enchaîner dans un même plan effectivement sur des actions très complexes, mm, parce que justement tu fais du compositing, mm, etc. donc on a vu ce que les grands pouvaient en faire, mais rappelle-toi qu'à l'époque on savait déjà qu'on allait avoir de la bouillasse, parce que ces outils là ils vont être entre les mains de tout le monde. Ils ont été entre les mains de Robert Rodriguez, qui nous a fait sa saga magnifique des Spy Kids, tu vois, ou de Shark Boy et Lava Girl, et je ne sais pas quoi, qui était vraiment exactement ce qu'on redoutait. Et moi, j'attendais, je me disais, mais il va peut-être aussi y avoir des trucs du milieu. C'est-à-dire des mecs qui s'amusent à faire un peu les cons, et en fond, c'est fun, quoi, parce que finalement, parce qu'on aime justement cet esprit comic book, on va quand même bien se marrer. Et moi, ce que j'ai vu dans mon titre, c'est ça. J'ai vu des gamins en train de faire les cons avec les outils qu'on leur avait mis entre les mains.
En fait, tu regardes les autres films de Tim Warbeck.
Alors, je pense que je devrais effectivement les mater. Le truc, c'est que Mark Millar, donc, il était très méfiant, parce que justement, lui, il s'attendait probablement à une adaptation encore plus sage de sa BD, mais de ce que j'ai compris, en fait, lorsqu'on lui a fait un pré-montage de la première demi-heure du film, il a commencé à être calmé, même s'il voyait qu'effectivement scénaristiquement ils étaient partis complètement dans une autre direction que ce que lui faisait, parce que son personnage est beaucoup plus cynique et beaucoup plus froid et nettement plus assassin dans la BD, à ce que j'ai compris. Je pense que le côté délire de gosse immature lui a plu.
Oui, de toute façon, alors Mark Millar, c'est exactement ce qu'il reprochait déjà à Kick-Ass, hein, c'est-à-dire plus tard, c'est-à-dire que en gros quand Matthew Vaughn adapte Kick-Ass, et ça c'est Matthew Vaughn qui me l'a dit en interview, il m'a dit Mark Millar me traite de lopette. Il trouve que je suis beaucoup trop sentimental avec le sujet de sa BD, quoi, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit, ça vous fait pas chier? Il m'a dit, non, je m'en branle. Mmh. Et vraiment, tu vois, je m'en fous, j'assume, en fait, tu vois, d'avoir ce sentimentalisme, on va dire, tu vois, que effectivement, Mark Millar n'a pas, et ce qui, à mon avis, manque beaucoup aussi à son, comment dire, au travail que je connais de Mark Millar, en tout cas. Mais après, le truc, c'est qu'il y a, quand, même sans connaître, en fait, la BD initiale, il y a cette problématique en fait de voir un film qui sort en 2008 mais qui est coincé en 1999, parce que l'autre grosse influence du film, et qui d'ailleurs en fait peut être à la fois une influence stylistique et une influence de fond, c'est Fight Club. Pour moi, ça parle clairement de ça, en fait, oui, dans les 15-20 premières minutes, en fait. Et justement, comme tu commences un film sur ça, que tu dérives sur autre chose, et que tu essayes vaguement de rattraper les wagons en fait en cours de route thématiquement, la question qui se pose, c'est voilà, moi je suis pas encore tout à fait au fait de ce que j'aime ou ce que j'aime pas vraiment dans Fight Club. C'est un film qui me pose plein de soucis, mais qui en même temps me fascine beaucoup sur plein de points.
On précise pour ceux qui n'ont pas vu Wanted, mais qu'effectivement il y a tout un chapitre sur l'aliénation sociétale de ce personnage entre son boulot, sa vie, etc.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que même en fait, c'est admettons que le discours dans Fight Club soit structuré, tu vois. Mais c'est pas un podcast sur Fight Club, donc voilà. Mais clairement, là, c'est dans Wanted, c'est en fait on te cite Ikea, ça n'a aucun rapport, tu
non
vois,
mais bien sûr mais...
on te il y a cette espèce de moment où il pète la gueule du mec, tu vois, avec
exactement avec le clavier d'ordinateur et où les touches du clavier
forment le fuck you
avec une des lettres qui est faite par la dent du mec qui a sauté, mais voilà, mais ce plan là il est typique justement du sale gosse dont je parlais, en mode je fais n'importe quoi. C'est une idée de BD, cette scène-là.
Peut-être, tu vois.
Parce que le spectateur, effectivement.
Tu peux avoir le fond et la forme. Hein.
Là, en l'occurrence, depuis le début, on est frustré de voir que ce personnage ne fait rien, ne réagit pas par rapport au fait que sa meuf le cocufie avec son collègue de bureau, qui s'est passé pour son meilleur pote. Bon, ben, ce fuck you, enfin, ce coup de clavier dans la tronche, avec la dent qui vient se poser au milieu du fuck you, c'est c'est une idée de sale gosse, quoi. C'est une petite vengeance mesquine que le spectateur a sur ce personnage à la noix. Mais comment dire, c'est quelque chose qui matériellement n'aurait pas pu être fait dans un film des années 90. Et tout d'un coup, tu le vois se concrétiser. Moi, ça m'a amusé de voir ça. Je me marre à moins de titre presque. Je dis bien presque, comme je me marre à Gods of Egypt, quoi, si tu veux, dans le côté. Putain, mais
Gods of Egypt, c'est plus rigolo.
C'est encore mieux. Mais il y a ce côté. Putain, mais les mecs, ils ont osé le faire. Ah. C'est complètement con. J'y ai pensé moi-même parce que je suis complètement con. Mais eux, ils ont carrément franchi le pas et l'ont mis à l'image. Et il y a beaucoup de moments comme ça dans Wanted, Choisis ton destin, que je trouve d'une immaturité réjouissante. Ça pourrait faire calculer et cynique et finalement, ça l'est pas. Alors, il y a un personnage
Justement, ça l'est, mais bon, après, c'est
un personnage qui est important dans la constitution de son projet, c'est le producteur Mark Platt, hein, qui a vraiment beaucoup poussé pour le truc. Déjà, c'est lui c'est un amateur de comic book, c'est lui qui avait repéré la BD de Mark Millar, mais surtout, il a fait des pieds et des mains pour avoir Timur, machin Timur chose.
Beckman de toi.
Voilà. Parce que c'était quand même un assez gros budget. Et le studio n'était pas du tout prêt à miser sur un réalisateur Ruskov dont il connaissait rien et qui avait fait deux films qui avaient vaguement marchoté dans les vidéoclubs.
Pas vaguement marchoté en Russie.
Non, je parle aux États-Unis.
Ah oui.
Aux États-Unis. Le reste du monde, il n'existait pas pour eux. En Russie, ça avait cartonné, mais en tout cas, aux États-Unis, ils s'en foutaient, quoi. Et puis surtout, la crainte que ce mec soit pas du tout en mesure de diriger les comédiens, etc. Donc il a quand même fallu que Platt se mette en caution morale, en fait, en disant, en gros, c'est sur moi que ça va retomber. C'est-à-dire que c'est moi qui vais m'assurer que le cadre de travail de ce mec-là soit impeccable pour pas qu'il parte en couille, quoi. Ce qui voulait dire effectivement faire l'intermédiaire avec le studio, faire l'intermédiaire avec les comédiens, etc. Et laisser faire son truc avec sa propre boîte d'effets spéciaux, hein, qu'il a fait bosser sa boîte d'effets spéciaux russe, en fait, sur les 800 plans, sur les 800 plans du film. Donc c'est pas non plus un truc qui s'est fait en total roue libre. Il a quand même fallu la structuration de ce producteur pour que le film puisse.
Je pense pas que tu puisses faire un film comme ça en roue libre parce que à un moment donné, ça reste. C'est un gros budget, mais c'est pas non plus un budget
c'est pas ma stock, tout simplement parce que
c'est
le film
pas le budget d'Iron Man, quoi, et puis surtout, qui est sorti la même année, on va dire.
Le film devait être classé R, alors je sais plus si au final il l'est ou
si,
pas.
Si,
il l'est, ouais. Donc d'emblée, ça baisse de presque de moitié.
Même si le film a été un carton, hein. C'est-à-dire que en gros, le film avait vraiment été un succès. D'ailleurs, pendant longtemps, il y avait l'idée de faire une suite qui ne s'était pas encore matérialisée.
Oui, il y a eu de l'écriture. Ils étaient à 6 mois du tournage, hein, quand finalement le projet du 2 s'est arrêté. Ouais.
Et il y a, ça a révélé, on va dire, et un peu starifié James McAvoy.
Clairement.
Il y a, moi j'aimerais bien qu'on parle peut-être de ça un petit peu, parce que on va pas faire 36 podcasts sur Madame, tu vois, mais il y a Angelina Jolie quand même dans le film, et Angelina Jolie, mine de rien, elle a représenté dans les années 2000 l'une des héroïnes d'action. En fait, du cinéma hollywoodien.
Exactement.
Et alors, moi, je trouve que dans des films de merde. C'est-à-dire que ce soit Tomb Raider 1 ou 2, que ce soit, comment ça s'appelle, Wanted. Alors, j'ai pas vu le film qu'elle a fait après de ton réalisateur préféré, là, Philippe Noyce.
Je crois que t'allais parler d'Alexandre Legrand.
Salt. Non, parce que ça, c'est. Alors. Moi, je trouve que Angelina Jolie, c'est plutôt une bonne actrice. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est révélé.
Je déteste Angelina Jolie. C'est un vrai fléau pour ce qui me concerne. Mais je réalise que c'est un truc très très personnel. Mais elle a une aura de négativité qui me rend la vision des films très difficile.
Alors, je trouve que c'est tout à fait le cas dans les problématiques de personnages d'action, parce qu'en fait, elle est absolument antipathique. Et encore une fois, pas parce qu'elle joue une femme d'action, mais vraiment parce qu'elle le joue de manière antipathique. Quoi. Oui. Elle dit qu'elle a basé son jeu sur Clint Eastwood, en fait, sur celui-là. Et t'as envie de dire non, c'est Clint Eastwood, il fonctionne pas comme ça du tout.
D'accord. Oui, il fallait le savoir, effectivement.
Voilà. Et en gros, parce qu'elle a tourné avec lui au même moment, elle avait fait L'échange.
Ouais.
Mais par exemple, dans L'échange, moi je trouve dans Alexandre Legrand, dans Une vie volée, dans Cyborg 2, elle est très bien. Donc voilà. Non, à part Cyborg 2, mais. Est-ce qu'elle a fait Cyborg 2 avec Jack Palance quand même? Fallait
non,
le dire, tu vois.
Par rapport
à qui m'écoute pas, en fait. On est en train d'enregistrer, tu m'écoutes pas.
Si, je t'écoute, mais en même temps, je recherche une info.
Cyborg 2. Est-ce que j'ai vu Cyborg 2? Voilà, ok, d'accord.
Donc, vas-y. Non, mais elle a été c'est un atout incommensurable pour le film et pour la carrière qu'il a eue aux États-Unis. C'est évident que il n'aurait pas fait le score qu'il a fait si elle n'était pas présente. Il y a tout une continuité Matrix, comme tu l'as dit, dans l'action, mais Matrix c'est aussi on est aussi dans la culture entre guillemets comic book hacker que Angelina Jolie incarne en fait, puisqu'elle était dans le film Hackers des années 90, ouais, et elle est restée pour ce public là une icône essentielle, quoi. Ouais, si tu veux
Borg 2, quoi.
Si tu veux, absolument, Cyborg 2. Mais le truc, c'est que le film n'aurait pas marché sans elle, c'est évident. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de malsain qui est généré par son personnage dans le film et qui me gêne énormément. Je veux pas mettre du tout en question son répertoire de comédienne par rapport à son personnage. Son personnage n'est pas un personnage creux. C'est juste que j'ai pas envie de le suivre, quoi.
Mais de toute façon, voilà. En fait, le problème, je trouve, et là, je pense qu'il faut quand même rentrer dans le creux de ce que ça raconte, parce que c'est une chose, en fait, de se marrer sur des plans débiles, ouais, etc., etc. Mais enfin, à un moment donné, le film, je le trouve assez toxique, en fait, dans ce qu'il raconte, quoi. Il y a quand même cette idée que, en fait, pour moi, j'ai l'impression que si t'as dépassé ta crise d'acné, tu peux pas vraiment kiffer ce film, en fait. Si tu veux, c'est vraiment, ça s'adresse pour les gosses de 20 ans, quoi, tu vois, maximum, quoi. C'est-à-dire, une fois que t'as dépassé ce stade-là, je pense que t'as l'impression d'être pris pour un crétin congénital, quoi. Et j'entends pas par là que les gosses de 20 ans sont des crétins congénitaux. Je parle vraiment de ce que le film, en fait, comment le film essaye de les draguer, tu vois. Il y a cette espèce d'idée que tu te sens pas bien dans ta vie, mais qu'est-ce qui te manque, en fait? Bah, il te manque 3 millions de dollars sur ton compte, en fait. C'est ça, c'est ça le vrai problème. Et là, d'un seul coup, tout va bien. Et quand il retourne à la fin et qu'il remet sa carte dedans et qu'il se rend compte qu'il a plus ça, il fait, oh, il tombe par terre et il était tout malheureux.
Et puis être un assassin, c'est quand même vachement cool parce que l'humanité mérite ça.
Avec cette idée en plus, si tu veux, que tout, de toute façon, c'est choisi, donc t'as même pas à te prendre la tête.
Choisis ton destin.
C'est le destin. Et là, pour le truc, parce que les fils, en fait, de comment t'appelles ça, les codes, en fait, ils essayent de décoder à travers les trucs de fils qu'ils font, là, tu vois, c'est ça te dit ce qu'il faut faire, tu vois. Tu te prends pas la tête, tu vas, tu tires, le seul truc que t'as à faire, c'est de faire en sorte que ta bastos, elle rentre dans le
crâne de l'autre, quoi, tu vois. Ouais.
Donc, du coup, je trouve quelque chose d'assez, je trouve malsain, en fait, dans le film, dans ce que ça raconte, mais sous couvert de on s'en bat les couilles, en fait, tu vois, c'est-à-dire
Je le mets sur le compte de l'héritage de Marc Millar, parce que ce cynisme-là, il me semble vraiment venir de
Un manque de questionnement vis-à-vis, en fait, de ses aînés, c'est-à-dire que je suis désolé, mais en fait, quand tu cites Matrix et quand tu cites, Fight Club, ouvertement, ce sont des films, quoi qu'on en pense, qui posent des questions, en fait, si tu veux, sur ce malaise-là, et surtout, en fait, si tu veux, qui ont chacun une approche, certes, différente. Moi, je dirais que mon problème, et je prends pas forcément en compte, je prends vraiment le film en compte, hein, pas forcément le roman de Palahniuk, tu vois, mais mon problème avec Fight Club, c'est plus l'idée que, bon, bah, finalement, de toute façon, on est tous des fils à papa, tu vois, de Bourges, tu vois, etc., etc., qui veulent jouer à la Révolution, tu vois, et tu te dis, bon, bah, pour moi, j'ai l'impression qu'on ne sort pas vraiment du sujet, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas quelque chose de constructif, voilà. Même si, encore une fois, le film est assez époustouflant dans sa forme, dans tout ce que tu veux. Mais il pose, en fait, un questionnement. Matrix aussi, si tu veux. Et là, je trouve que ce film-là, t'as l'impression qu'ils se sont dit, mais on n'a même pas envie de se casser la tête.
Évidemment.
Oui, mais au final, ça révèle la connarditude du projet, quoi.
Alors, connarditude, mais en fait, ce qui sauve le projet, justement, c'est que par tout le caractère paillard, on va dire, qu'a amené Timur Brejnev-Inski,
Braunschweiger
Bronson. Non, mais Bychowski, j'entends que, enfin, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui m'a plu dans le film, cet apport de foutraque, justement, et pas du tout finalement préoccupé d'un quelconque message ou de se prendre plus, de péter plus haut que son cul d'une certaine façon, quoi. Donc oui, évidemment, ça cite ces classiques là mais ça ne le cite qu'en surface, et j'ai presque l'impression que c'est dit que on ne cite que finalement on fait que de l'image, quoi. C'est un langage de publicitaire, hein, que le film emploie. Donc,
c'est un des problèmes aussi.
Bah oui, mais en même temps, ça peut être ce qu'il y a de drôle quand justement c'est assumé comme tel, en fait. C'est un film de surface. C'est un film de sales gosses qui font les cons. Cet aspect-là me plaît. L'autre, effectivement, ce dont on a parlé, notamment incarné par, en partie, Angelina Jolie, c'est ces thématiques effectivement un peu toxiques quoi qui me gênent.
Vas-y, alors, développe un peu plus, c'est-à-dire que parce que je cherche à comprendre, c'est-à-dire que pour moi
il y a une fascination pour le mal en fait, mais qui est pas explicitée. Quand elle est explicitée dans un film, la fascination pour le mal, ça devient une question. Quand elle est pas explicitée, ça devient un désir. Tu vois,
c'est larvé quoi.
Et d'une certaine façon, dans pas mal de ses rôles, c'est aussi ce qu'Angelina Jolie a privilégié dans ses choix de carrière, quoi. Cette fascination là. Mais là, on sort du sujet. Mais en tout cas, je trouve que c'est un peu dans le film ce côté-là, justement par rapport à cette société d'assassins et la façon avec laquelle elle est présentée. Par ce côté, c'est cool, quoi. C'est fun, c'est bon. Et pas assumé au fond. Parce qu'il y a une continuité en fait de je trouve de Wanted au film que va faire ensuite Matthew Vaughan et notamment sa série des Kingsman, parce que basiquement les Kingsman c'est la même structure narrative que Wanted. C'est un moins que rien adolescent qui se retrouve finalement tout d'un coup à devenir un mec doté de pouvoirs absolument légendaires quoi, après un entraînement de malade dans une société secrète dont le but
est de sauver
le monde en tuant des gens.
Comment son... Si c'est hérité d'ailleurs aussi dans Kingsman, puisqu'en fait c'est son père qui était.
Ouais, mais tu vois le lien. Évidemment, le lien c'est aussi Mark Millar, mais sans parler du fait que James McAvoy s'est retrouvé dans le X-Men de Matthew Vaughan, qui émule aussi un peu cet état d'esprit un peu foutraque, c'est-à-dire de temps en temps, permettons-nous des scènes où on fait un peu n'importe quoi. Comme on en voit beaucoup dans Kingsman, et ça reste les scènes les plus réjouissantes du film. Mmh. Alors Kingsman, je trouve que c'est un bien meilleur film que Wanted, ouais. Mais la note d'intention, elle est déjà là dans Wanted, en fait. Le côté, amusons-nous avec ça. Faisons les cons.
Ouais, bon,
ça aurait dû être, d'ailleurs, plutôt que Choisis ton destin, j'aurais préféré que ça s'appelle Wanted, faisons les cons.
Faisons les cons. Ouais. Bah, je pense que, ouais, c'est une façon, c'est une façon de l'aborder, en fait, pour quelque part... tolérer un film que tu subis en fait, je trouve, en fait, parce que
mais je subis
part,
rien
en fait,
du tout.
Alors, moi, non, mais je veux dire, moi en fait, si tu veux, en tout cas c'est le meilleur moyen de le prendre peut-être, mais le truc c'est que je trouve, enfin si tu veux, je même si je vois les connexions thématiques entre les films, si tu veux, pour moi c'est un film qui décrase 100 fois plus Kingsman, et pas seulement qu'une question de qualité hein, mais vraiment dans le côté sale gosse du film, c'est-à-dire que en fait à un moment donné cette caste là en fait, on leur fait péter le crâne, en fait, dans Kingsman. C'est-à-dire que tous les 1%, on les fait exploser, tu vois. Alors que là, c'est non, en fait, la question qui est posée dans Wanted, c'est faisons partie des 1%.
Oui, mais ça, c'est ton côté communiste, refoulé.
Rafik, tu vois.
Refoulé, j'insiste.
Ouais, excuse-moi, mais c'est vrai que, tu vois, voilà, je trouve que le scope, en fait, de Wanted, encore une fois, n'est pas aussi large que celui de Kingsman, en fait, sur ce que ça raconte sur la société. Même si, encore une fois, ça le raconte de façon totalement, débridé et tu peux pas prendre ça vraiment au sérieux quoi,
non,
tu vois.
Même à 6 ans, tu prends pas ça au sérieux.
Voilà, mais le problème de Wanted, je trouve que c'est surtout que ça finalement en fait je trouve que tu peux identifier le public de connards. Et alors je suis désolé, je vais peut-être insulter des gens qui nous écoutent hein, tu vois, mais qui pourraient vraiment kiffer ça au premier degré. C'est ça que je veux dire, c'est-à-dire ah ouais, mais moi tu sais quoi, mon pote il baise ma femme donc je lui pète la gueule et en fait ce machin etc. Tu vois, tout ce genre de trucs, même vraiment dans le premier quart d'heure sans aller jusqu'au fantasme de l'assassin, sans aller sur tout ça. Et du coup, enfin c'est ça qui le rend extrêmement désagréable. En plus, je trouve hein, personnellement d'être un film, mais absolument d'une laideur, tu vois.
Alors, la question esthétique, c'est compliqué parce que
incommensurable. Quoi,
non, mais parce que c'est vrai que c'est pas très joli. Bon, ça c'est une chose, mais par le fait justement par le comment je pourrais dire. Le caractère surchargé de cette mise en scène, enfin notamment dans les scènes clés où il y a beaucoup d'effets spéciaux, fait que du coup la laideur des cadrages elle devient superfétatoire par rapport à ce qui me concerne, en tout cas, à la jouissance primordiale. Je veux pas non plus faire la morale, mais je suis ici à un podcast où vous avez récemment défendu un film qui s'appelle Torque, la route sans flamme.
On l'a pas défendu parce que t'as pas écouté le podcast. Alors fais pas le malin, tu vois. On l'a pas défendu.
Sur lequel vous reconnaissez quand même une forme de plaisir un peu pervers.
Non, parce qu'en fait, en le revoyant justement, mais tu aurais dû écouter le podcast avant de nous attaquer comme ça bassement, un flic, tu vois. Voilà, et c'est peut-être là que notre amitié va s'arrêter, tu vois, parce que tu n'écoutes pas nos podcasts, tu vois. C'est que, en fait, on l'a pas défendu le film. En vrai, on n'aime pas ce film. Mais par contre, ce qu'il faut reconnaître, en fait, à ce film-là, c'est que effectivement, il n'y a pas un plan normal.
Oui.
C'est-à-dire, il y en a de temps en temps, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il y a tellement pas un plan normal, le mec cherche tellement à casser toutes les règles. Tu vois, ce qui n'est pas le cas, je trouve, justement, dans Wanted.
Il cherche pas à casser les règles dans Wanted. Il cherche à voir jusqu'où il peut aller dans l'implosion d'une normale, en fait.
Voilà, mais,
c'est-à-dire que l'idée de, dans la scène d'ouverture d'un mec qui traverse une vitre, par exemple, on a vu ça 10 milliards de fois au cinéma. Un mec, ça traverse une vitre, point final, quoi. Okay. Non, là, un mec qui traverse une vitre, la vitre, elle prend littéralement la forme de son visage, voilà, en se cristallisant en petits morceaux de sucre. Enfin bon,
ouais, mais
il faut que ça devienne délirant, parce mais comme le font d'ailleurs les artistes de comic book, hein, les Geoff Darrow et compagnie. J'ai l'habitude de dire Geoff.
Arnaud Bordas sort de ce
voilà,
coin.
Où il pourrait se contenter juste de dessiner une bagnole qui pète. Non, il faut pas que ce soit une bagnole qui pète. Il y a 150 000 boulons dans la voiture qui doivent péter en même temps, tu vois. Et ça, pour moi, Tikhmour Brejnev, il c'est ce qu'il fait, en fait.
André Tarkovsky. Voilà,
c'est exactement ce qu'il fait. Il en fait 3 tonnes, y compris lorsqu'il n'y avait pas tellement de raison d'en faire autant.
Non, mais le truc, en fait, pour préciser, juste pour moi, Torque, La Route sans Flamme, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, Torque, La Route sans Flamme, c'est de la merde cynique. Wanted, Choisis ton destin, c'est de la merde cynique. Voilà, on en est au même truc. La grosse distinction, c'est que toi, tu kiffes un petit peu, quoi. Voilà, c'est quand même très très. Alors, ce qui est marrant, c'est que je peux t'accorder en fait un truc par contre sur Wanted, c'est que effectivement, je suis pas sûr que ça vienne vraiment de Timur Bekmambetov.
Qu'est-ce que tu le prononces bien, putain.
Bah, c'est parce qu'on partage un alphabet. c'est pour ça. Les Grecs et les Russes. Donc le truc, c'est que en fait je l'avais interviewé, mais pas pour Wanted, parce que j'en étais prêt déjà à découdre en fait sur le film, parce que j'avais pas encore vu. C'était parce que des fois on fait des interviews avant d'avoir vu.
Et puis t'as vu sa carrière, t'as vu sa carrure, t'as vu la bouteille de vodka posée à côté de lui.
C'était au téléphone, et en fait j'en étais prêt à me dire putain je vais sûrement parler à un con en fait pendant 20 minutes 30 minutes, tu vois, et pas du tout. C'était un mec mais vraiment adorable.
Ah ouais, mais moi je suis
alors adorable.
Tu es sûr que tu vas chez lui, il te fait des merguez, le mec, c'est sûr.
Je sais pas, mais tu vois, le truc en tout cas, c'est qu'il était vraiment tout gentil, tout tu vois, etc. Je me suis dit, ah ouais, en fait, tu peux être un mec super sympa et faire des sales films de merde comme ça, en fait, absolument détestables.
Qui détruisent notre jeunesse.
Pas seulement la jeunesse, le cinéma, tout court, tu vois, enfin tout, quoi, tu vois. C'est la jeunesse encore, c'est pas très grave, tu vois, mais le cinéma, quoi. Donc moi, c'est vraiment, il y a cette notion que, ouais, c'est un film, et c'est assez marrant parce que, on n'a pas vraiment annoncé qu'on faisait ce podcast, voilà, mais il y a des gens qui ont vu sur certains réseaux sociaux que je revoyais le film, tu vois, et qui m'ont toutes, mais personne m'a dit, ah ouais, trop bien, vous avez traité ça, quoi. C'est vraiment tous, putain, bon courage, qu'est-ce que c'est que cette merde, pourquoi tu regardes ça, etc., etc. Et du coup, j'en viens à me dire que c'est un film qui est pas très populaire. Ça va être intéressant de voir comment les gens vont prendre ce podcast en l'occurrence, tu vois. C'est-à-dire que d'un côté il y a le yin graphique, tu vois,
je vais vous ramener tout un nouveau public, donc voilà, même pas connaissance,
qui caresse en fait, si tu veux, les courbes, tu vois, de bon, pas dans les géologies, mais de James McAvoy, tu vois, comme ça, tu vois. Et moi qui trouve ça absolument détestablement nul, tu vois. Voilà. Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose sur ce film, en fait? Ah, si, il y a un plan quand même. Il y a un plan pourri, horrible, nul, dégueulasse, et en même temps d'une ridiculerie absolument totale. C'est parce que je spoil, hein, c'est la mort de Morgan Freeman,
oui.
Où il fait une espèce de tronche, mais totalement improbable, quand il se prend une balle dans le buffet, là. Et je pense que, en fait, c'est peut-être le plan qui restera de l'histoire de la carrière de Morgan Freeman, quoi. Je sais pas, tu vois. Mais en fait, c'est horrible, quoi. C'est vraiment un plan. La même année que Dark Knight, quoi. Tu vois, où il était All Suave and Shit et tout, quoi. Et là, il y a ce truc à côté. Donc, merci Timur Bekmambetov. Voilà.
Merci Wanted. Stéphane.
Merci Wanted,
choisis ton destin.
Merci Alain, merci à la technique, qui lui aussi adore Wanted, mais il veut pas en parler, quoi. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels, et puis en fait aussi sur les agrégateurs de podcasts habituels aussi, quoi. Et Rafik, la prochaine fois tu me feras le plaisir de trouver un meilleur film que ça, bordel de merde. Voilà, à bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.